France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Et si on ouvrait plus grand les écoles? Qu'est-ce que nous avons appris depuis le début du déconfinement le 11 mai, les premières reprises dans les écoles? Eh bien que globalement ça se passe pas si mal, que les enfants étaient contents de retrouver leurs copains ou certains de leurs copains ou leurs maîtres et maîtresses. On a aussi compris que pour le bien de tous, les mesures sanitaires sont très contraignantes dans les écoles. Or, il commence à y avoir des voix pour dire, attendez, jongler avec un enfant qui retourne à l'école le lundi, l'autre le lendemain, ça devient trop compliqué. Les tenir à la maison quand la rue, quand la ville reprend doucement des allures d'avant, c'est encore plus compliqué. Et surtout, ces contraintes très strictes à l'école deviennent parfois au fond presque absurdes si on regarde ce qu'on a juste en bas de la rue. La plupart des parents reprennent le chemin du boulot, les enfants ont besoin de reprendre contact avec leur vie d'enfant. C'est un peu comme si la peur s'était inversée. Le 11 mai, une vraie peur de la contagion, désormais une peur pour l'enseignement et pour l'équilibre des enfants. Alors, faut-il adoucir? Faut-il simplifier? Faut-il se détendre sur les mesures d'hygiène? Peut-on se détendre? Peut-on adoucir et simplifier les gestes barrières? Oui, des précautions, bien sûr, mais peut-on réellement augmenter le nombre d'élèves par classe? Peut-on imaginer des contraintes moins strictes? C'est le moment de nous dire ce que vous en pensez. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et la première, c'est vous, Mylène, vous nous appelez de Nancy. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Mylène.
Alors, moi, je voudrais vous donner mon témoignage. Donc, après 2 mois de confinement où mon conjoint et moi-même avons continué à travailler, mon conjoint en 100% télétravail et moi-même en 50% télétravail, 50% présentiel, donc au bureau, on a fait comme on a pu pour faire la continuité pédagogique auprès de notre enfant qui est en classe de CE2. Mmh. Mais là, ça devient compliqué parce que moi, j'ai un travail qui est plutôt dans le service client logistique, donc c'est important d'être sur place. Mon conjoint a commencé un nouveau travail en télétravail. Maintenant, on réclame quand même sa présence au bureau pour qu'il puisse un petit peu prendre en main son
nouveau travail. Faire connaissance,
ouais. Oui, tout à fait, faire connaissance de ses collègues qu'il a connus par le biais d'un ordinateur jusqu'à présent.
D'accord.
Et avec le beau temps, notre fils, forcément, pense à autre chose. Il ne pense pas du tout au travail. Mmh. Et dans les deux classes de CE2, seuls 11 élèves prioritaires ont repris le chemin de l'école. Et ces mêmes 11 élèves sont ceux qui iront jusqu'au 4 juillet. On ne nous a donné aucun espoir, aucune explication. Et là, dernièrement, on nous a envoyé un mail pour nous dire qu'il faut venir rechercher les affaires à l'école. Mmh. Et je me dis, il n'y a pas d'au revoir du maître. Mmh. Ça se termine d'une manière qui est brutale. Je veux dire, pour lui, je trouve ça d'une tristesse. Mmh. Voilà, donc c'est dur pour lui, c'est dur pour nous. Et là, ça devient vraiment compliqué. Et on se dit que c'est jusqu'au mois de septembre. Et la mairie ne nous donne aucune autre solution de garde pour notre enfant.
Qu'est-ce qu'il dit, votre fils, Mylène? Qu'est-ce qu'il disait au début du confinement et qu'est-ce qu'il dit maintenant, en fait? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez que c'est bon, on le tient plus, en fait, le gamin? Ou est-ce qu'il faut donner de l'explication tout le temps? Qu'est-ce qu'il dit, lui?
Eh ben, en fait, au début, il était plutôt content parce que comme on travaille tous les deux, il nous avait pour tous les deux, donc c'était vraiment sympa. On avait mon conjoint et moi notre ordinateur, lui il avait ses cours, c'était vraiment une expérience extraordinaire, donc il était content. Là, au bout de 2 mois, il n'a plus de cadre, en fait, il ne sait plus, il est perdu, comme il est fils unique, il ne voit plus aucun autre enfant, donc il n'a en présence que 2 adultes avec des discours d'adultes, et je pense que c'est juste pas de son âge, en fait, il a besoin de retrouver des enfants, sont un maître, une manière d'apprendre qui n'est peut-être pas la nôtre, parce que nous, on n'a pas forcément la patience pour lui inculquer des connaissances qui devraient être transmises par l'école.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Mylène, qui sera une bonne entrée en matière pour cette discussion que nous avons ensemble jusqu'à 20h pour discuter ensemble. Cécile Frattaroli est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de la PEP, Fédération de parents à Paris. Bonsoir Nathalie Lagouge, vous êtes directrice d'une école élémentaire à Évreux. Je vais vous poser la question à vous d'abord, si vous le voulez bien, Madame Lagouge. Chez vous, par exemple, à Évreux, est-ce qu'il y a des situations comme celle-là? Où on prend les enfants prioritaires, c'était effectivement ce qui était prévu, les enfants prioritaires d'abord, et on dit aux autres, rendez-vous au mois de septembre, ça existe chez vous aussi, ce genre de situation-là?
Bonsoir.
Bonsoir.
Non, en fait, enfin, généralement, les élèves sont accueillis au moins 2 jours par semaine. Sur les 35 écoles d'Évreux, je n'ai pas connaissance de, d'école qui n'accueillerait pas jusqu'au mois de septembre pour les gens qui seraient volontaires, en fait.
Est-ce que vous avez entendu, vous, des témoignages qui ressemblent à celui de Mylène, des impatiences, des difficultés, maintenant que, comme je le disais en introduction, on a l'impression que la peur a un peu changé de camp, c'est-à-dire on avait peur de la contagion, aujourd'hui on a plus peur pour l'équilibre de l'enfant. Est-ce que vous avez senti ce basculement?
Bah, écoutez, nous, dans mon école, en fait, on a accueilli dès le 12 mai d'abord 3 niveaux et ensuite, là, depuis cette semaine, on accueille tous les niveaux. On les accueille à 100% parce qu'en fait, on a commencé à 30 élèves, on est passé à 40, maintenant on est à 70 et la semaine prochaine, on va être à 110 enfants. C'est vrai que bon, on essaye de les avoir à 100% parce qu'en plus, je suis dans un quartier prioritaire, donc j'ai la crainte de reperdre les enfants si on propose un accueil à temps partiel. Mais bon, là, on arrive au maximum de nos capacités d'accueil.
Et sur combien? C'est-à-dire que vous avez quel pourcentage chez vous, Nathalie Lagouge, d'enfants?
Là, on est environ à peine 40% et on va arriver à 50%, mais c'est vraiment le grand maximum qu'on pourra accueillir. Donc là, il va falloir avoir quelques relais, notamment au niveau de la municipalité. Ça serait intéressant qu'on ait des personnels supplémentaires dans les écoles pour pouvoir accueillir plus d'enfants, en fait.
On va y revenir dans un instant. Cécile Frattaroli, moi, ce qui me frappe en écoutant à la fois ce que dit Nathalie Lagouge et ce que disait notre auditrice Mylène, c'est les disparités qu'il peut y avoir d'un endroit à un autre. Mylène, là, est à Nancy. Là, nous sommes à Évreux. On a beaucoup d'appels aussi qui viennent de Nantes, de Corrèze, de région parisienne, et d'ailleurs on a l'impression que il y a 1000 manières d'avoir fait cette rentrée et du coup 1000 inégalités finalement.
Effectivement, c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans les familles aujourd'hui et beaucoup d'impatience et parfois de colère, parce qu'effectivement d'une école à l'autre, même si on sait que chacune a sa spécificité, il y a des disparités qui sont vraiment trop importantes et que seul le protocole sanitaire ne peut justifier. Au début tout le monde a eu peur et aujourd'hui tout le monde a bien compris l'urgence de remettre ses enfants à l'école parce qu'il faut recréer ce lien scolaire et ce lien social, et puis il y a aussi la pression économique pour les familles, mais c'est compliqué d'avoir autant de messages et autant d'interprétations du protocole sanitaire et il faudrait plus de clarifications.
Mais le problème,
on sera à 50% dans l'école de Madame Lagouge la semaine prochaine, on est dans certaines écoles à même pas 20%. Oui. Et en réalité, soit c'est parce que est-ce que les enseignants ne sont pas au rendez-vous, est-ce que on applique une règle un peu trop précise, est-ce que il manque du personnel de la municipalité, on n'a aucune réponse.
Bah justement,
et on a inquiétudes. Et c'est bien le problème.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est les mesures sanitaires qu'il faudrait un petit peu restreindre, parce que effectivement, au démarrage avec la peur, quand on se dit qu'il faut laver les classes tout le temps à chaque fois que les enfants sortent et puis relaver derrière, ça nécessite un roulement qui fait qu'il ne peut pas y avoir beaucoup d'enfants. Donc est-ce que c'est les mesures sanitaires qui sont trop importantes et qu'il faudrait peut-être réimaginer dans un cadre évidemment qui resterait sanitairement correct, ou est-ce que c'est une histoire de personnel? Est-ce qu'on sait ça ou pas?
On ne sait pas, mais aujourd'hui, je pense que moi, en tous les cas, j'ai pas la compétence pour décider s'il faut assouplir ou non les conditions sanitaires. Ce qu'on constate, c'est que avec des conditions sanitaires similaires, on a des situations complètement différentes et je ne les comprends pas, et je pense qu'il y a on a laissé trop de liberté à chacun, et je pense qu'on n'a pas fait le maximum partout, et c'est dommage. Et c'est dommage parce que les familles, elles ne comprennent pas ce message, c'est évident. Enfin, aujourd'hui, il y a des écoles où il y a 12 salles de classe, il y a que 4 salles de classe qui sont occupées. Je comprends pas en quoi ça correspond au protocole sanitaire. On pourrait, les enfants sont accueillis de manière différenciée. On pourrait très bien mettre dans chaque classe, dans chaque salle de classe, des élèves avec un enseignant ou avec un animateur ou avec une association. C'est ce qui était proposé avec les deux S2C. C'est ce que disait Madame Lagouche sur les relais de la municipalité qui pourraient être mis en place. Donc il y a quand même, on peut mieux faire quand même. En tous les cas, c'est le sentiment qu'ont les familles quand elles discutent avec ce que vous dites. Là, aujourd'hui, on va avoir différents témoignages. Rien ne va ressembler à autre chose. Et ça n'est pas normal.
Et j'ai vu, Nathalie Lagouche, que vous vouliez intervenir. Je voudrais justement qu'on entende d'abord Pauline qui appelle de Nantes et qui est aussi dans une autre situation. Bonsoir, on vous écoute.
Bonjour, merci de prendre mon appel.
Soyez la bienvenue.
Merci. À Nantes, la situation est très faible aussi au niveau de l'accueil à l'école. Dans notre école, la maire en fait a décidé que 3 classes seraient prioritaires. Grande section, c'est PCM2, alors que nationalement, je ne crois pas que ce soit ce qui a été dit. Et le 2 juin, pour l'instant, on n'a aucune idée de si on va élargir le nombre de classes à ouvrir. J'ai une enfant de moyenne section, un enfant de CE1 qui ne sont pas à l'école depuis 2 mois. Je ne sais pas si au moins mon fils de CE1 pourra retourner à l'école dès le 2 juin. La maire de Nantes a aussi décidé que les petites sections et moyennes sections ne seraient pas pris à l'école. Donc moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est premièrement à quand un assouplissement du protocole sanitaire, sachant que les pédiatres français disent que les enfants ne sont pas contagieux. Et deuxièmement, quel recours on a face à une mairie qui prend des décisions qui ne sont pas liées à la situation sanitaire actuelle dans un département qui a toujours été vert. Voilà, moi j'ai besoin que mes enfants retournent à l'école pour travailler. Tous les parents sont dans cette situation. On fait le travail, l'école, c'est pas possible. Au bout de 2 mois et demi, tout le monde pète un plomb. Les enfants sont tristes, donc il faut que ça change maintenant.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Pauline. Nathalie Lagouge, est-ce que c'est du côté, vous, de votre expérience, est-ce que c'est du côté du protocole sanitaire qu'il faut regarder, ou est-ce que c'est du côté de l'organisation qu'il faut regarder? Vous parliez de mairie, vous parliez de personnel aussi. Faut regarder de quel côté. Est-ce que je vais vous le poser comme ça, est-ce que vous oseriez, vous, assouplir un peu le protocole sanitaire?
En fait, le principal problème, c'est l'accueil de, en gros, 14-15 élèves par salle de classe. Après, il faut aussi des personnels. Il y a des enfants qui, les parents ont fait le choix de ne pas les remettre à l'école d'ici le mois de septembre. Et donc, on a des enfants qui restent à la maison. Donc, il faut quand même des enseignants qui assurent le travail en distanciel. On a aussi un problème d'effectifs, puisqu'on a des effectifs variables selon les écoles. Alors moi, en éducation prioritaire, on a la chance d'avoir les CPCE1 à moins de 15. Donc évidemment, c'est aussi pour ça, c'est ce qui explique les 50% de la semaine prochaine, puisqu'on a déjà des classes qui ont moins de 15 élèves. Mais c'est vraiment pas le cas partout, puisque là, c'est en éducation prioritaire. Si on est à 25-30 par classe, matériellement, on ne peut pas accueillir plus, sauf si on assouplit la distanciation, c'est-à-dire les 4 mètres. Et c'est ça qui pose difficulté, parce que le lavage des mains, effectivement, ça nous prend à peu près 1 heure par jour. C'est assez fastidieux. Mais le principal problème, c'est l'accueil dans les classes, l'accueil physique, quoi.
Alors, évidemment que c'est pas à vous de décider à quoi va ressembler un protocole sanitaire. C'est certainement pas à l'éducation nationale. C'est évidemment sur un autre rayon, celui de la santé, que ça se situe. Mais est-ce que, au moins, vous réclameriez qu'on le re-regarde, qu'on réévalue, en fait, après 15 jours? Est-ce que vous pensez que ce serait utile qu'on réévalue les protocoles qui pouvaient être extrêmement stricts le 11 mai? On pouvait le comprendre. Il y a peut-être d'autres infos aujourd'hui qui sont un peu différentes. Est-ce qu'une réévaluation vous paraîtrait, intéressante?
Ben, on peut réévaluer, c'est juste ce que je disais tout de suite, c'est vraiment l'histoire des 4 mètres par élève, puisque si on n'absouplit pas de ce côté-là, c'est insoluble en fait, sauf si on a des volontés, notamment des municipalités en lien avec les associations, etc., pour accueillir les élèves en dehors de l'école ou à l'intérieur des écoles s'il y a des locaux disponibles.
Cécile Frattaroli, notre amie auditrice, posait aussi la question des différences, effectivement, d'une ville à l'autre, et donc des recours. Ça arrive, ça existe. Vous avez des demandes de ce genre-là. Est-ce que c'est un recours dont on parle, donc quelque chose de très cadré, ou simplement de, encore une fois, se revoir, recommencer, rediscuter des protocoles et des modalités?
Je pense que la première étape, c'est de se revoir, de rediscuter. Et quand ça suffit pas, il faut s'adresser à l'inspecteur ou l'inspectrice de son district et éventuellement au rectorat pour essayer de comprendre et avoir des réponses. Moi, je reviens sur le témoignage de Mylène au début, donc on lui dise qu'elle puisse pas revenir, son enfant puisse pas revenir en septembre. Moi, j'avais compris que tous les enfants devaient être accueillis au moins une fois, ce qui sera pas suffisant, bien évidemment, mais ça n'est pas normal et ça ne correspond pas du tout aux recommandations du gouvernement. Donc, y a un problème. On m'a pas sollicité pour mettre en place des recours, mais effectivement, il faut réinitier des dialogues. Quant au protocole sanitaire et la question que vous posez sur sa réévaluation, de toute façon, effectivement, 2 semaines se sont passées. On va avoir demain une intervention du Premier ministre sur les nouvelles modalités. Je pense qu'il faudra adapter ce protocole à ce qui va être mis en place dans les restaurants s'ils réouvrent, dans les autres espaces publics, parce que en réalité, il n'y a pas de raison, surtout que les enfants sont quand même moins vecteurs de risque a priori. Alors évidemment, là-dessus, on a tout dit, mais a priori, il y a l'air d'avoir un consensus.
On a tout dit, donc, au son contraire, mais comme on a les 15 jours de déconfinement et de retour des classes, peut-être qu'on peut dire autre chose.
Et donc, effectivement, ce serait assez incompréhensible pour tous que ce protocole sanitaire reste aussi exigeant s'il ne l'est pas tout autant dans d'autres lieux publics où les gens vont être brassés un peu plus d'ailleurs que dans les écoles. Donc c'est effectivement une piste. Mais dans un premier temps, encore une fois, il est important que chacun fasse le mieux possible et le plus possible. Et même si c'est beaucoup de travail et même si c'est compliqué, on est tous partenaires, on l'a tous été pendant ce confinement. Tout le monde, il y a vraiment un grand travail de collaboration, beaucoup de patience de la part des familles. Et puis, comme l'ont dit les deux témoignages que vous avez eu là à l'instant, les familles ont beaucoup participé, surtout dans le premier degré, quand même dans l'apprentissage et dans la continuité pédagogique. Évidemment, les enseignants, bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, on a l'impression que les familles sont un peu abandonnées avec un protocole qui est interprété de manière assez aléatoire en fonction de l'interlocuteur qu'on a, en fait.
Eh bien, justement, on va écouter une enseignante qui est en lycée. Bonsoir, Catherine.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Oui, alors moi, je voulais témoigner plutôt pour le secondaire, parce que je suis enseignante en lycée, mais dans les collèges, il y a un peu les mêmes problématiques. Moi, je suis un petit peu... je vais avoir un point de vue un peu différent. Je ne souhaiterais pas particulièrement qu'on allège le protocole. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas du tout les compétences pour juger dans cette situation de post-confinement, mais encore de crise quand même, parce qu'à ma connaissance, le virus circule encore. C'est pas tant le protocole pour moi qui est problématique que la situation matérielle dans laquelle on travaille, qu'on subit depuis des années. J'habite dans une ville et une académie où depuis 15 ans, on a supprimé des dizaines d'écoles, de classes, de collèges. Donc évidemment qu'on manque d'espace, donc les postes qui vont avec. Donc quand on se retrouve dans une situation de crise comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, eh ben évidemment qu'on n'a pas assez d'espace et qu'on n'a pas assez d'enseignants.
Mais chez vous, Catherine, ça se passe comment? Parce que vous êtes prof en lycée, c'est ça? Donc vous n'avez techniquement, vous n'avez pas repris, si?
Non, pas encore, mais on est en train d'y réfléchir, évidemment. Et puis, on oublie aussi une chose, c'est que dans un établissement, quel qu'il soit, il y a évidemment des enseignants, il y a des enfants ou des jeunes, mais il y a aussi des personnels d'entretien qui sont les plus à risque dans le travail de nettoyer, de désinfecter les établissements. Et ils sont, en temps normal, pas assez nombreux non plus. Donc, on va leur demander aussi ce surcroît de travail qui est quand même encore dangereux, puisque le virus, il est encore là. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on se pose aussi la question de cette situation anormale aujourd'hui, elle l'est aussi en temps normal. Dans mon établissement, il n'y a pas une classe à moins de 35 élèves. Comment on fait pour... c'est inadmissible déjà en temps normal. Donc on peut pas, bien sûr qu'on peut pas, on va pas pouvoir tous les accueillir. Et quand on est enseignant, je vous assure que on est presque bouleversé par ça en fait. On ne peut pas accueillir nos élèves parce qu'on n'a pas assez d'espace et pas assez d'adultes pour les accueillir.
Et peut-être, merci pour votre témoignage, Catherine. Et peut-être, et on revient là-dessus, Cécile Frattaroli, présidente de la PEP à Paris, peut-être que, en effet, s'il n'y a pas assez de place pour pouvoir respecter des distances de sécurité, j'ai envie de dire quelles qu'elles soient d'ailleurs, solliciter les mairies pour accueillir des enfants ailleurs, est-ce que ce serait la solution ou est-ce qu'au fond, ce serait créer une sorte d'usine à gaz? En fait, si on ouvrait, je ne sais pas, un gymnase qu'on transforme, une salle des fêtes ou je ne sais quoi.
Une usine à gaz, pas forcément. Je pense que ça se fait déjà de toute façon dans des dans certaines collectivités locales, donc c'est réalisable. Après, bon, à Paris, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, je pense que les espaces n'ont pas tous ouverts. Les gymnases sont encore fermés, il me semble, jusqu'à mi-juin. On a déjà les rythmes scolaires avec des temps périscolaires. Qui sont en général effectués dans les classes par banque d'espace à côté, donc tout ça est compliqué, mais on pourrait quand même dans un premier temps, sachant que tous les enseignants ne sont pas revenus à l'école, mettre les animateurs qui s'occupaient de ce périscolaire dans les salles de classe qui ne sont pas occupées et accueillir des enfants, ça permettrait déjà d'en accueillir un peu plus. Mais effectivement, c'est quand même c'est possible de l'organiser dans certaines villes. Il faut essayer de le généraliser, c'est ce que disait Madame Lagouge également. Il faut la mairie est un partenaire et un relais dans cette reprise de l'école, c'est évident.
On a Eric qui est dans le Gard sur franceinter.fr et qui nous dit ceci, qui est enseignant, il dit j'ai repris le travail, j'ai un élève par classe et certains de mes collègues en ont quatre, ce sont les parents qui ne renvoient pas les élèves à l'école. Et là aussi on a l'impression qu'on se renvoie un peu la balle, Nathalie Lagouge, vous qui êtes directrice d'école, entre c'est les parents qui ne renvoient pas les enfants, ce sont les conditions qui sont un peu différentes. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de niveau d'angoisse que nous avons tous collectivement entretenu et qui rend la situation toujours aussi confuse aujourd'hui à la fin du mois de mai ?
Il y a des grandes disparités en fait entre les écoles. C'est vrai que moi au début, quand on a ouvert et on nous a annoncé 30 élèves qui reprenaient sur 200, j'étais un petit peu affolée, on va dire, parce que on n'a qu'une envie, c'est de récupérer nos enfants, nos élèves. Je pense que ce que témoigne l'auditeur est aussi la réalité à certains endroits. Il y a quand même des craintes des familles. Je ne minore pas le fait qu'on n'accueille pas tout le monde, mais on se trouve quand même dans des situations. Il y a des quartiers où en fait, c'est assez inégalitaire aussi par rapport aux classes sociales. Les écoles de centre-ville accueillent beaucoup plus d'élèves que les écoles en éducation prioritaire. Les gens en éducation prioritaire ont plus de craintes, je ne sais pas, pour remettre leurs enfants à l'école. On a des écoles qui accueillent 70% des élèves, mais seulement sur 2 jours. Donc bon, ça c'est pas la vraie solution, puisque c'est vrai que ça ne permet pas aux familles d'être sereines par rapport au mode de garde. Donc c'est là où je pense que provisoirement on pourrait mettre en place des choses avec les associations, notamment des associations d'éducation populaire, des associations sportives, mais effectivement il faut quand même avoir des garanties de à qui on va confier nos élèves. Donc c'est un petit peu compliqué à mettre en place, mais c'est faisable.
Et surtout dans le temps qui vous reste, parce qu'on est quasiment début juin.
Voilà, mais justement, moi je me projette aussi sur septembre. Ouais. C'est vrai que si le protocole n'est pas assoupli en septembre, je ne vois pas comment on va pouvoir faire. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on redevienne une école obligatoire et pas sur le volontariat.
On pose la question à Vincent, tiens, qui est en Corrèze. Bonsoir Vincent, soyez le bienvenu Vincent.
Bonsoir madame.
Allez-y.
Donc j'habite en Corrèze, à côté de Brive. Mes enfants, en fait, sont en RPI. Donc c'est deux villages qui ont deux écoles et il y a différents niveaux. Et ils sont en école maternelle, ils sont dans la même classe, comme ils sont en petite et moyenne section. Et mes enfants ne vont pas reprendre l'école jusqu'au mois de septembre. Et hier, ma femme est partie récupérer les affaires de nos enfants. Et donc, ils avaient pu voir la maîtresse. La maîtresse a indiqué qu'elle ne savait même pas si elle allait ouvrir au mois de septembre si effectivement ce protocole d'accueil des enfants n'était pas assoupli. Comme à partir du moment où vous envoyez un document de 64 pages à des instituts, à des directeurs d'école ou à des maires en zone rurale, qu'il faut respecter, c'est en école maternelle, c'est strictement impossible. Par exemple, ils devaient supprimer tous les jouets qui était non lavable. Donc voilà. Et laver systématiquement les mains des enfants, etc., ça devenait un petit peu trop compliqué. Donc ils ont préféré ne pas réouvrir l'école. Et ça, c'est quand même dommageable, sachant qu'en plus, ils accueillent les enfants de soignants. Et en ce moment, ça ne me dérange pas du tout. Mais par contre, ça défavorise ceux qui ont d'autres professions et qui ont besoin de travailler et qui ne peuvent même pas laisser leurs enfants à l'école. Nous, on a une classe virtuelle aussi tous les jeudis où j'ai mes enfants qui sont devant l'ordinateur en train de danser, de chanter, etc. Mais très franchement, les voir pendant un quart d'heure en liaison avec la maîtresse, avec d'autres enfants, devant un ordinateur à 3 et 4 ans, c'est quand même très difficile à voir.
Sur ce fameux protocole de 64 pages, Nathalie Lagouche, vous qui l'avez eu forcément entre les mains et qui avez dû l'appliquer, très sincèrement, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes dit non mais là c'est bon, je tourne la page, quoi. Enfin, je passe ça de toute façon chez moi, c'est juste impossible.
Bah, il y a des choses, bon, quand on nous dit de ne pas du tout toucher au cahier des enfants, etc., c'est quand même très difficile. Il faut quand même prendre des précautions, évidemment, le gel dans les classes, le lavage des mains systématique, ça, on l'applique. Mais après, c'est vrai que désinfecter un crayon parce qu'un enfant y a touché, bon... C'est quand même un peu délicat. Alors, on essaye d'avoir le matériel propre à chaque enfant. Les enfants laissent leur matériel à l'école. Ils ne peuvent pas se prêter un stylo. Mais c'est vrai que il y a quand même des choses qui sont beaucoup de redites quand même dans ces 64 pages.
J'espère.
Mais franchement, c'est un peu lourd quand même. C'est un peu lourd à mettre en place.
C'est à Paris que nous allons maintenant rejoindre Layla. Bonsoir Layla.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. On vous écoute.
Merci beaucoup d'avoir pris mon témoignage. Je suis famille monoparentale, je travaille dans une association à temps plein et en télétravail. Donc ça fait presque 3 mois et non 2 mois qu'on subit cette situation. Ma fille est dans une école publique REP+, et elle n'a toujours pas de place. Alors là, je suis en train de faire pression sur l'école en tant que famille monoparentale, c'est-à-dire que en fait, je secoue la carte de la stratégie individuelle pour qu'elle puisse enfin avoir l'école. Donc ce n'est pas vrai que les enfants ont une à deux jours par semaine, beaucoup et une majorité en fait n'ont pas même une journée ou 2 jours d'école en présentiel. Nous, dans notre école, c'est 60% des enfants de l'école qui ne sont pas accueillis. L'équipe pédagogique de l'école fait son possible, ils sont incroyablement, ils nous envoient des mails, ils nous contactent, ils téléphonent aux enfants, ils ont fait un travail incroyable pendant le confinement et même depuis le déconfinement, mais ce sont nos enfants qui trinquent aujourd'hui. Ce protocole est inadmissible, je travaille dans la santé publique, n'importe quel infectiologue vous le dira, ils ne le font même pas dans les hôpitaux en réel, ce qu'on a impose dans les écoles. Donc moi, j'ai besoin que ma fille aille à l'école, non pas pour un mode de garde, non pas pour que je puisse travailler parce qu'aujourd'hui, je travaille au détriment d'elle. C'est-à-dire que quand moi, je travaille toute la journée devant mon ordinateur, ma fille, elle est toute seule dans une autre pièce et elle regarde une tablette. On n'avait même pas de télé. Elle a jamais autant regardé des écrans de toute sa vie en l'espace de quelques mois. Le protocole sanitaire ne correspond plus du tout à l'état de l'épidémie. D'ailleurs, quid des expérimentations pour vérifier au niveau sanitaire si les écoles convert à 15% d'enfants présents, 30%, 60%. Est-ce qu'il y a des contaminations? Non, il n'y a personne. Les instituts le disent bien, tout se passe bien, les enfants suivent les choses. Et les enfants, en fait, ils trinquent. On a beaucoup d'enfants dans notre quartier qui ne vont pas bien. Alors, c'est une école REP+, je veux bien, mais quel que soit le type de famille, d'enfants, quel que soit, ils ne vont pas bien. Ils crient, ils sont impatients, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de l'absurdité. C'est une absurdité, une cascade d'interdictions. Donc un coup ils étaient contaminants, ils contaminaient tout le monde, un coup ils n'avaient plus le droit d'aller dans les boutiques, mais ils ont le droit de jouer autour de l'école parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans l'école, parce qu'en fait c'est ça qu'on fait après avoir travaillé toute la journée. Et puis par ailleurs, ma fille et moi on a eu le Covid. Donc quid des gens qui ont eu le Covid, qui peuvent ni faire de mal, c'est-à-dire ni contaminer d'autres personnes, pendant au moins quelques mois, ça on est sûr maintenant, et en plus on peut pas re-avoir le Covid. Donc non, les enfants ne sont pas accueillis dans les écoles, c'est quelques enfants qui sont accueillis. Les profs n'en peuvent plus de faire des tris. C'est pas leur boulot de trier des enfants. Sur quels critères? Sincèrement, sur quels critères? Les critères, ce serait, mais en fait, moi, ma fille, demain, elle va tomber. Peut-être qu'on me considère comme une famille qui va bien, donc elle n'est pas prioritaire. Mais demain, elle va tomber. Elle n'en peut plus. Ça fait 3 mois. Et quid si le Covid revient? Qu'est-ce qu'on fait? On recommence ça? Les gens, ils en peuvent plus, tout le monde craque. Et où sont les principes et les valeurs de l'école publique? Où sont les stratégies collectives pour tout le monde, l'équité entre les enfants? Ah, voilà. Donc moi, je trouve ça inadmissible. C'est une cascade d'interdiction et d'absurdité depuis 2 mois et demi, 3 mois. Là, l'école, c'est un exemple absolument fracassant. Nous, les parents, on a été très patients pour l'instant. Alors on dit oui, on dit oui, on dit oui. Mais comment on fait de 9h à 18h30 devant un ordinateur et un téléphone pendant que nos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Moi, elle a pas de cours, donc elle peut pas jouer avec d'autres enfants dans l'école. On est obligé d'aller devant dans la rue. On n'a plus de rue piétonne. On n'a pas de parc, on n'a pas de jardin. Et moi, je dois travailler, donc je peux pas l'emmener dès qu'elle pète un plomb, sortir et faire du sport, même faire l'école avec elle. C'est pas possible.
Merci.
C'est plus possible.
Laïla, je vous arrête. Pardon. Vous étiez très très bien lancée, mais merci beaucoup pour ce témoignage. Ça m'amène deux questions. Cécile Frattaroli, d'abord est-ce qu'il y a un problème Paris et région parisienne quand même? Laïla nous parle là de Paris. Les chiffres disent qu'il y a pas même 20% dans beaucoup d'endroits dans Paris et autour pas même 20% d'enfants revenus dans les écoles. C'est un taux qui est finalement assez bas par rapport à une moyenne nationale. 24% dans Paris intramuros. Donc est-ce qu'il y a un problème Paris d'abord?
Alors moi j'avais le sentiment que la moyenne nationale était identique, mais si c'est vraiment inférieur, il y a un problème parisien. Il y a un problème à Paris parce qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives pour les
espaces.
C'est
pas de locaux, exactement. Exactement. C'était ça le sens de ma question en fait.
On peut pas. Donc les écoles, déjà elles sont pas occupées à 100%. Il faut quand même le rappeler. Je le dis depuis le début. De l'émission, mais voilà, ça c'est important. Il faut qu'on mette des enfants dans toutes les salles de classe des écoles parisiennes, d'une manière ou d'une autre. Et puis effectivement, les deux S2C qui devaient être le relais pour permettre d'avoir des enfants pris en charge sur un temps plutôt complet, on a beaucoup de mal à les mettre en place parce qu'on n'a pas les espaces, c'est évident.
Il y a une autre question là-dessus, enfin pas là-dessus d'ailleurs, connexe, Madame Frattaroli, c'est ce que disait Laïla à l'instant sur de toute façon, on a bien vu qu'il n'y avait pas eu de contamination. Alors, on n'a évidemment pas l'œil sur l'ensemble de la France. Il y a un chiffre quand même qui était sorti et qui disait, c'était au début du déconfinement, qu'il y avait eu 70 écoles, en gros, qui avaient dû être fermées pour question de précaution, parce qu'on avait trouvé des cas. Est-ce qu'on sait, oui ou non, s'il y a eu d'autres fermetures, beaucoup de fermetures, à cause des cas de contamination? Est-ce qu'on a ce chiffre ou pas?
Alors, j'ai l'impression que les chiffres sont, enfin, qu'il y a beaucoup de transparence sur ces chiffres. Et en plus, dans les 70 écoles dont vous parlez, ce sont pas des cas, ce sont des suspicions la majorité.
Donc, et ce sont des adultes. Je voudrais aussi préciser ça pour les gens qui nous écoutent.
Donc,
ce sont des adultes.
Et puis 70 au regard du nombre d'écoles en France, c'est vraiment, c'est vraiment très peu. Donc effectivement, le témoignage qu'on a eu à l'instant est édifiant. Effectivement, il faut qu'on se repose les questions. Mais moi, je veux juste qu'on revienne le 11 mai ou même un peu avant, quand on a commencé à parler du déconfinement, sur toutes les antennes et dans tous les médias, ce qu'on disait, c'est un scandale. Il faut reprendre qu'en septembre. Les parents ont peur. On fait des sondages, 65% des familles. Donc ça change tout le temps. Donc parce que c'est quand même un virus et une pandémie sur lequel on apprend tous les jours. Et donc mais aujourd'hui on est à un autre moment et on a l'impression que l'école est trop effectivement c'est pas assez transparent, c'est pas assez clarifié et les familles sont vraiment elles ont l'impression d'être abandonnées et effectivement la colère de votre dernier témoignage, moi j'ai beaucoup d'interpellations ces derniers jours. Les parents n'en peuvent plus effectivement et c'est trop quoi.
Servane, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y, vous êtes à Rouen.
Oui, c'est ça. Moi je suis professeure de français dans un collège à Rouen et je voudrais vraiment mettre les choses au clair. J'aimerais beaucoup reprendre le cours des choses normalement. J'aimerais vraiment revoir tous mes élèves, ça me ferait très plaisir et ça me rassurerait. Maintenant, clairement, c'est sûr que si on doit réaccueillir et les quatrièmes et les troisièmes, en plus des sixièmes et des cinquièmes à partir de la semaine prochaine, soit on laisse complètement tomber le protocole sanitaire parce que c'est juste physiquement impossible, soit on considère que l'école ne reprendra pas normalement. Les enseignants ont envie de travailler, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que de toute façon, les profs sont un peu petit peu paresseux par nature et n'ont pas envie de reprendre parce qu'après tout, il reste qu'un mois. Mais il faut se rendre compte de ce qu'on fait actuellement en classe. Moi, j'ai repris les cours. Enfin, je suis retournée au collège deux jours depuis la réouverture. Et vraiment, c'est un plaisir de revoir les élèves. Mais déjà, ils sont très peu nombreux. Et surtout, on ne fait pas cours. On ne fait pas cours. Vraiment, on les aide à faire tous leurs devoirs qui sont sur les ENT, tous leurs devoirs qui sont à distance. Mais on ne fait pas cours, vraiment. Donc, en tant que ministre qui nous parle de reprise, de retour à la normale, etc., c'est totalement faux. Et d'autant, enfin, si je peux ajouter, on sait très bien que la fin d'année au collège, alors en primaire, je me prononcerai pas, je ne sais pas, mais au collège, bon, à partir du mois de juin, il y a de moins en moins d'enjeux. Les conseils de classe vont arriver. Les conseils de classe sont maintenus la semaine, à partir de la semaine prochaine. Déjà, quand en normal, quand les conseils de classe sont passés, tout le monde sait très bien que les élèves se sentent moins concernés, disons. Enfin, c'est, voilà. Donc là, dans une situation pareille, on ne peut pas les évaluer, on ne peut pas les noter, on ne peut pas leur faire d'évaluation ou quoi. Et je sais bien que l'école doit être un lieu avant tout de transmission, de partage, etc. Mais il ne faut pas se leurrer si on n'a plus les enjeux des conseils de classe et de l'évaluation. Très honnêtement, je vois mal comment est-ce qu'on pourrait vraiment faire... faire travailler les enfants.
Mais Servane, alors d'abord, moi, j'ai entendu, non pas, les profs n'ont pas très envie, j'ai entendu qu'il y avait une espèce d'absurdie, en fait, de part et d'autre, au fond, et d'incompréhension, que ce soit de la part des professeurs sur certains protocoles et des parents sur ce qui se passe dans les écoles. Moi, vous qui êtes prof et qui avez les élèves en face de vous, si demain on vous disait, il faut réévaluer effectivement le protocole sanitaire, encore une fois, tout en restant dans un cadre qui serait sain pour tout le monde, mais est-ce qu'on peut réévaluer le cadre sanitaire, est-ce que vous diriez oui, réévaluons le cadre sanitaire?
J'hésiterais de trop me prononcer parce que c'est vraiment un domaine que je maîtrise pas du tout. Maintenant, de ce que j'ai vu, c'est clair que les règles sanitaires, elles fonctionnent pas spécialement. Nous, en tant qu'adultes, porter le masque, par exemple, bon, on arrive à s'y tenir. Maintenant, les élèves que j'ai vus, ils étaient plein de bonne volonté, mais le masque, ils le touchent constamment. Ils le touchent vraiment sans arrêt, ils le mettent sous leur nez, ils le relèvent, ils l'enlèvent parce que, c'est compliqué, enfin, c'est pas très agréable. Ouais. Et donc, on passe leur temps à leur dire de le remettre, ils le remettent très docilement, mais s'il y avait des tests en termes de microbes ou je ne sais quoi, clairement, c'est zéro. Mais c'est pas de leur faute, mais bon, c'est des petits encore. Donc, on leur lave les mains, enfin, on leur donne du gel, ils sont tous à un mètre, etc. Mais bon, le masque, c'est vrai que c'est vraiment compliqué.
Merci beaucoup, Servane, merci vraiment.
Merci beaucoup.
On va conclure avec vous, si vous le voulez bien, Cécile Frattaroli. Est-ce qu'il y a un rendez-vous prévu? Alors, on attend tous effectivement ce que va dire le Premier ministre demain jeudi. Est-ce qu'il y a un rendez-vous prévu avec l'Éducation nationale pour rediscuter, re-réfléchir de ce qui se passera tout ce mois de juin? Est-ce que c'est prévu ou pas?
Alors, pendant tout le confinement, sur tout le territoire, on a eu des échanges avec les directeurs d'académie. Et donc, il y a un peu plus de flottement parce qu'on attend les décisions de jeudi et de vendredi, parce que je crois que le ministre Jean-Michel Blanquer parle aussi vendredi. Et effectivement, il faut absolument que tout le monde se parle à nouveau pour avancer ensemble, parce qu'il faut que ce travail collaboratif perdure, c'est indispensable. Et effectivement, il faut préparer septembre aussi.
Et merci beaucoup. Merci vraiment. Merci pour vos nombreux témoignages également, et portez-vous bien.